Bonjour à tous, nous sommes sur l'émission Valeurs de l'art à Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je m'appelle Hortense, élève au lycée Albert Camus à Bois-Colombes. Ce 19 février 2026, nous sommes allés voir au théâtre L'Avant-Scène à Colombes une pièce intitulée Le poids des fourmis, parlant d'une vie de lycée, où les adultes se moquent de tout et où les élèves n'ont finalement aucun poids dans les décisions de l'école. Certains élèves comme Jane dans cette pièce se révoltent pour faire entendre leur voix en essayant de communiquer avec leurs adultes et leurs camarades. Cependant, est-ce que la discussion est le seul moyen de transmettre un message ? De nos jours, de nombreux et différents moyens de pousser à la révolte ont émergé. Parmi eux, l'art, notre principal sujet de discussion aujourd'hui. Mais l'art pourrait-il transmettre un message ou pousser à la révolte ? Aujourd'hui, nous accueillons Mademoiselle Clarisse qui s'apprête à nous parler d'un film maintes fois récompensé, 12 ans d'esclavage, un sujet passionnant. Puis nos journalistes du jour, Sarah et Nawel, débattront de notre sujet avec nos différentes invitées venues spécialement pour nous rencontrer, Chouchou et Hilaria.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nous commençons donc avec notre journaliste Clarisse qui vient nous parler du film 12 ans d'esclavage. Bonjour Clarisse.
Bonjour Hortense. Oui, tout à fait. La semaine dernière, je suis allée voir le film 12 ans d'esclavage au cinéma. C'est un long métrage oscarisé qui est sorti en 2014, tiré d'une autobiographie parue en 1853. Il raconte l'histoire tragique de Solomon Northup, un homme noir libre né à New York, capturé et retenu en esclavage dans des plantations de coton au sud des États-Unis en Louisiane en 1841 durant 12 ans. Cela se déroule sous le contexte historique de l'esclavage au XIXe siècle aux États-Unis. Ce film raconte une histoire qui s'inscrit dans le cadre de la désobéissance civile par rapport à notre liberté aujourd'hui. Il nous amène à prendre conscience des conséquences lorsqu'elle n'est pas présente, en l'occurrence pour les hommes noirs à l'époque. Le réalisateur Steve McQueen, un homme noir afro-américain, nous présente cette histoire d'une façon très brutale et réaliste, avec des scènes de violence physique et de maltraitance dans le but de rendre compte au public de la cruauté et du manque d'humanité des hommes blancs au XIXe siècle. Il s'empare de ce sujet très sensible, qui lui est personnel du fait de son identité afro-américaine, afin de toucher le public sur cette dure réalité.
Super intéressant. Et ici, comment la désobéissance civile se manifeste ?
Ici, la désobéissance civile se manifeste par une forme de résistance individuelle, et donc par la volonté de Solomon Northup et des autres esclaves de refuser ces conditions d'esclavage et de contourner le système en s'enfuyant, ce qu'a fait Solomon Northup.
Merci beaucoup Clarisse.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Pour commencer, nous allons écouter notre première invitée, Hilaria, interviewée par nos journalistes Sarah et Nawel. Bonjour les filles.
Bonjour. Bonjour. Nous recevons Hilaria. Donc vous êtes venue aujourd'hui pour nous parler de l'art de Margaret Harrison d'un point de vue engagé. Bonjour Hilaria.
Bonjour, oui tout à fait, et merci de me recevoir sur Radio Campus Paris.
Pour commencer, pourriez-vous nous parler de cette femme, pour ceux qui nous écoutent ?
Alors, Margaret Harrison est née en Angleterre en 1940. Son art s'inscrit dans le mouvement d'art féministe, et selon elle, l'art doit être politique sinon rien. Avant de créer, elle effectue des recherches approfondies afin d'effectuer une réelle démarche de dénonciation qui lui permette d'aborder des thèmes universels et intemporels, comme le travail des femmes, les violences sexuelles et domestiques, l'impact de la guerre sur les femmes ou encore, et surtout, les normes de beauté imposées par la société.
En quoi consiste son art plus exactement et surtout, comment selon vous cela traduit son féminisme ?
C'est une artiste qui joue beaucoup sur le visuel et la provocation avant tout. Elle effectue donc principalement des peintures et des dessins, mais aussi des installations avec des photos ou des objets. À travers son œuvre, elle porte un regard critique sur notre société sexiste et cherche à rendre visibles les différentes formes de domination. Elle dénonce les représentations sexistes et hypersexualisées des femmes dans l'histoire de l'art et dans la vie quotidienne. Pour cela, elle a tendance à inverser les rôles avec les hommes, en les représentant à leur tour dans des positions et des tenues qu'on considère comme sexy pour des femmes, mais dégradantes quand elles sont attribuées à des hommes. Par exemple, Margaret Harrison a redessiné des personnages de comics masculins comme Captain America, en talons aiguilles, en jupe et avec une très forte poitrine.
Très bien, et suite à ces provocations, quelles ont été les réactions et les critiques face à l'exposition de telles œuvres ?
Alors en effet, son art choque et dérange beaucoup. Un exemple marquant est sa première présentation à Londres en 1971, qui fut fermée et censurée le lendemain même de l'ouverture de la galerie qui exposait ses œuvres. Ceci est en grande partie à cause de l'exposition de son Bunny Boy, qui fut la principale cause de cette censure. Ce dessin ne fut pas seulement censuré, mais volé et probablement détruit comme le suppose sa créatrice, en constatant sa disparition le lendemain de la fermeture de la galerie.
En quoi consiste le dessin et dans quel contexte a-t-il été créé ?
Ce dessin représente Hugh Hefner, qui dirigeait le Bunny Club à Londres, un club qui présente des bunny girls, c'est-à-dire des jeunes femmes déguisées en lapin avec des tenues dénudées et de la lingerie. Il était aussi le fondateur du magazine Playboy. Margaret Harrison ne souhaitait pas que ce genre de représentation soit la seule image des femmes dans laquelle elle dit ne pas se reconnaître. C'est cette injustice qui l'amène à présenter de manière satirique Hugh Hefner de la même manière qu'il présente lui-même les femmes. Elle le dessine donc dans la même tenue que les Bunny Girls, donc avec des oreilles pendantes, elle lui achète aussi une poitrine et un corset, et fait finalement de lui un égal des femmes qu'il présente de manière dégradante, donc un Bunny Boy.
Merci beaucoup, on se retrouve dans 2 minutes après une petite pause musicale. Go shawty, go K. Go shawty, go K. Go shawty, go K. J'arrive en dolé sur un deux roues. À cette heure-ci, je perçois les auras, des lunettes pour les yeux rouges. Mes régies royales Torah, ma pièce, je veux lancer seul, ça sert à rien de casser ton dos. Hein. Quand elle m'approche, je suis paniqué. Je veux pas de leur follow. Désinhibé frère, je m'en fous de laquelle je ramène en Nissan. La mise pas mes paroles comme un prêtre en missa. Veux voir mon comme moi, mais miskin, pas de visa. Je rentre dans le business qu'elle est, cherche ma femme, mais où est-ce qu'elle est? Un autre type, laisse qu'il est skin. La pente, c'est pas l'escalier. Les vallons flash, je vois la mer de nuages sans escale. Non, je descends ce qui était, je mise pas. Elle connaît le thème, je glitch, mais je suis moins fréquent, je pitch. Le mindset est free, le bébé, tu sais, rien m'oblige. Je lui dis WhatsApp, girl shit, merci, t'es la seule ici. Elles sont pas belles si j'aime ça, elles aiment si, elles n'aiment pas les MC. On est plus dans le Banks, mais la rue peint des mots, j'ai dépeint comme si j'étais Banksy. On finxie, on se retrouve en backseat, pas de fancy. Là c'est plus le sexe, ça sent Ukensi. Même si elle est tellement fly quand il est 5 du mat et candy. Dans un cap à XO pour qu'elle coupe au Pepsi.
Sauf quand il faut choisir celui qui mène la tente. Quand on parle, c'est français, mais ma chatte crée de la latence. Hein. Je diverge pas où je vais, baby, c'est tout droit. Et si tu penses trop, laisse-moi tout terre avec mon bolet sur toi. Je reste fair play si tu restes straight. Ce que t'entends, tu l'as jamais vu, tant plus du respect. Tu sais, auto, y'en a trop qui cherchent à me tester. J'aime avoir le cœur dans les airs, mais c'est avec toi qu'il veut rester.
C'est avec moi qu'il faut rester. Je la mets sur moi, la mise à tout indexé. À Askip, je suis mimi, les autres m'ont vu blexé. Bien vite dans la mini d'une nana complexée.
Et fâché car mon bébé connaît tes tricks. Pour faire des bricks, lui et moi, rien qu'on fuck à ta. Parce qu'on est des freaks. Peut pas me reposer tant qu'on n'est pas friqué. Baby, c'est un alléqué marqué sur le ticket.
Go, go, shawty. Go, 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 shawty. Go, go, shawty. Go, 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 shawty. Go, 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 shawty. Go, 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 shawty.
Go, shawty.
Go, go. Je lui dis WhatsApp, girl shit, merci, t'es la seule ici. Elles sont pas belles si j'aime ça, elles aiment si, elles aiment pas les MC. On est peu dans le texte, mais la rue bande des mots, je dépeins comme si j'étais Banksy. On finxie, on se retrouve en Banksy, pas de fancy. Là c'est plus le sexe, ça sent le Kenzie. Même si elle est tellement fly quand il est 5 du mat et candy. T'aimes un kappa XO.
Nous venons d'écouter Visa de Phil et Caisse de Prodigy.
Et nous sommes maintenant en compagnie de Chouchou, membre de l'association Le Bruit qui court. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Pourquoi avez-vous créé cette association ?
Alors ça va faire maintenant plus de 4 ans qu'on a créé cette association et on l'a vraiment créée avec l'envie de pouvoir utiliser d'autres outils pour pouvoir parler de lutte différemment et un peu sortir des carcans classiques et habituels qu'on peut souvent voir, des pétitions, des manifestations, des rapports d'études sur des sujets et de se dire ok, comment est-ce qu'en fait on peut utiliser la créativité, notre créativité pour la mettre au service de lutte qui nous porte à cœur et pour lesquelles on a envie de se battre.
Très bien. Et du coup, comment vous choisissez les causes que vous défendez et comment vous les mettez en lien avec votre art ?
Alors, comment est-ce qu'on les choisit ? On a plusieurs axes. Soit on va partir de... on est un collectif d'une trentaine de personnes. Donc, soit on part de dans l'interne, quels sont un peu les sujets qui nous portent à cœur. Une fois par an, on se retrouve tous ensemble en présentiel et on réfléchit, ok, pour l'année qui redémarre, est-ce qu'il y a des sujets qu'on a envie de traiter ? Est-ce qu'il y a des sujets dans le débat politique qui ont besoin d'être mis en avant ? Donc, soit ça part de l'interne, soit des fois, c'est des structures qui viennent nous voir, des ONG, des associations, des collectifs, et qui nous disent, bah voilà, ça, c'est notre sujet, on a une problématique, on a besoin de soutien, on a envie de faire différemment, de proposer quelque chose différemment, est-ce que vous pouvez pas nous aider, nous soutenir, ou est-ce que vous avez envie de travailler avec nous ? Donc voilà, soit des fois, ça arrive de l'externe, soit ça arrive plutôt de l'interne, tout en ayant un peu en, en visibilité aussi quand même ce qui se passe politiquement dans la société française et qu'est-ce qu'on a envie de pousser ou pas pousser, quoi. Et ta deuxième question, là, tu me l'as redis.
C'est comment vous les mettez en lien avec votre art?
Ouais. Nous, c'est plutôt, on part du sujet, de la lutte, et on va ensuite réfléchir quelle va être la stratégie, enfin, quel est le public qu'on va vouloir venir toucher. Et en fonction de ça, on réfléchit, ok, quel va être le médium artistique qui va potentiellement le plus toucher ou qui va le plus répondre à notre sujet. Si je donne un exemple, dernièrement, il y a eu, par exemple, la question sur les violences sexistes et sexuelles. Eh bien, on a utilisé le corps, on a utilisé la danse, on a utilisé la musique, le son, pour faire véhiculer ce sujet-là et pour en parler. Mais on a déjà utilisé, par exemple, le théâtre pour un autre sujet. Donc, on part plutôt du sujet pour ensuite se dire, ok, quel va être l'outil, quel va être le médium qui va le plus répondre ou va peut-être toucher le plus les personnes sur cette thématique-là.
Est-ce que vous avez déjà reçu des oppositions ou des contestations par rapport à votre travail et votre art en général ?
Bonne question. Des contestations, parce qu'on fait, ça dépend, on fait des actions dans l'espace public. Nous, c'est là qu'on préfère, parce qu'on a envie de pouvoir aussi casser que l'art ne se fait que dans des espaces privés où il faut aller payer, etc. Donc on essaye aussi de le faire dans l'espace public. De celles qu'on a pu faire dans l'espace public, j'ai pas de souvenir qu'on ait eu des contestations vraiment verbales présentes, de nous dire mais pourquoi vous faites ça, ça décrédibilise la cause, c'est pas ok, parce qu'on vient le toucher. Nous, on a vraiment un axe où ce qu'on essaye de créer, on essaye de le créer majoritairement sur l'axe de la joie et ou de l'humour, parce qu'on se dit que c'est aussi par rapport à tout ce qui se passe, un peu les émotions négatives que la société peut nous générer aussi en ce moment. On se dit que utiliser ce levier, c'est aussi un levier qui va permettre ensuite d'agir et de se mettre en action collectivement. Donc on a rarement quand même des contestations et des oppositions dans ce que l'on fait et dans ce que l'on propose. Après, on a déjà participé à des actions de désobéissance civile. Donc là, il y avait déjà de la contestation sur place parce qu'on venait s'associer avec d'autres groupes pour faire de l'action de désobéissance civile. Donc il y avait de l'opposition de la part des forces de l'ordre, etc. Vous n'avez pas à être là de faire de ce que vous faites, quoi.
Ok. Et est-ce que vous avez ou vous pensez collaborer avec d'autres artistes ou associations ?
Oui. Alors nous, c'est aussi la base de ce que l'on fait. On ne part pas sur un sujet seul. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, les luttes, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, mais aujourd'hui, les luttes, elles sont reliées les unes aux autres, qu'il n'y a pas une lutte qui peut avancer seule dans son coin. Mais donc, du coup, on vient toujours chercher à faire avec les gens. Et donc, si par exemple, on prend un sujet, je ne sais pas, un sujet de société type une lutte sociale, on va aller chercher, ou en tout cas, on va aller se mettre en contact avec les personnes qui vivent et ont vraiment un vécu précis sur ce sujet. Par exemple, avec le planning familial, là, on va organiser ce qu'on appelle une gazette, donc un format papier. Et donc, on a un échange avec le planning familial pour traiter du sujet et le faire avec les personnes concernées. Donc ça, c'est un peu notre mot d'ordre. On fait toujours avec structure, association, collectif, individu. On essaie de ne pas faire les choses dans notre coin tout seul.
Et est-ce que vous avez comme objectif d'étendre votre association à l'international ?
Alors, à l'international, peut-être que ça sera un rêve. En tout cas, là, on commence à l'européen. Il y a ce qu'on appelle des programmes Erasmus+, si vous connaissez. Et on vient de répondre à un, enfin, on en a répondu à un l'année dernière, parce que c'est sur une durée d'un an. Et donc là, on s'en va en Sicile, en Italie, pour aller faire une résidence d'une semaine avec des jeunes de 18 à 25 ans et de leur parler de l'artivisme, de leur faire vivre ce qu'est l'artivisme et de leur proposer des actions, des outils, de la rencontre aussi, tout simplement. Donc on commence à faire un peu plus déjà à l'européen. On est allé aussi en Roumanie, on essaye un peu voilà, de rencontrer d'autres artivistes qui sont aussi au niveau européen et qui essayent de faire bouger les choses dans leur pays également, quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
Parfait. Merci beaucoup pour cette interview. Nous allons donc finir pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, à Maëlys, notre programme radio, Clarisse, Sarah, Nawel, nos journalistes et nos invités Chouchou et Hilaria sur notre émission Valeurs de l'art à Radio Campus Paris.
Bonjour, je suis votre présentateur Guillaume Enrotte et vous êtes actuellement sur la Radio Boisco sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Le 19 février 2026, nous sommes allés au théâtre de l'Avant-Scène à Colombes pour regarder la pièce Le poids des fourmis. Elle est jouée par une troupe québécoise. La pièce aborde des sujets comme l'éco-anxiété, la jeunesse ou même la démocratie. Aujourd'hui, nous aborderons trois thèmes différents autour de la jeunesse. Le premier portera sur les métiers émergents que les anciennes générations n'auraient même pas imaginé possibles. En second temps, nous verrons aussi la désinformation sur les réseaux sociaux que subissent les jeunes générations, pour enfin terminer sur leurs passions et leurs activités principales qui tournent autour du sport. Et encore une fois, bienvenue sur la Radio Boisco. Je vais donc vous présenter nos deux journalistes, Sarah Sivu, qui interviewera Clément Sauvé, une pauvre adolescente victime de désinformation sur les réseaux sociaux. Notre second intervieweur, Félix Bellettre, interrogera Antoine Lowe, un professionnel de e-sport, qui est ici pour nous présenter son métier qui sort de l'ordinaire, mais s'est imposé au cours des dernières années comme un changement dans les années futures au sein des métiers. Et pour finir, nous écouterons notre chroniqueur Alexandre Lan, qui s'exprimera sur les sports les plus pratiqués par les jeunes en France pendant l'année 2026.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et maintenant, je laisse la parole à notre intervieweuse Sarah et notre invitée Clémence.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec un invité spécial, Clémence, une lycéenne de la région parisienne, qui va nous parler d'un sujet très important, la désinformation auquel les jeunes peuvent faire face sur les réseaux sociaux, notamment dans le domaine de la politique. Donc, pour savoir, la désinformation est le fait de diffuser des informations fausses ou trompeuses de manière intentionnelle dans le but d'influencer l'opinion publique. Il me semble que récemment, Clémence, vous avez été confrontée un cas majeur de désinformation, qui est la polémique dans laquelle a été placé le nouveau maire de Saint-Denis, Baye Bagayoko. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous sur l'émission. Merci beaucoup pour votre invitation. En effet, j'ai récemment été victime de désinformation quant à l'affaire de Baye Bagayoko. Lors d'une interview en mars, peu après l'élection du maire de Saint-Denis, il a énoncé, je cite, Saint-Denis, la ville des rois. Quelques jours plus tard, le 17 mars, lors d'une interview entre Baye Bagayoko et Apolline de Malherbe, cette dernière a énoncé que les propos de Baye Bagayoko avaient été Saint-Denis, la ville des Noirs. Le maire de Saint-Denis s'est alors vu corriger une phrase qu'il n'a jamais dite. Cette information a ensuite été rediffusée sur CNews, une chaîne TV dirigée par les partisans d'extrême droite, par le partisan d'extrême droite, pardon, Vincent Bolloré. Apolline de Malherbe s'est quelques jours plus tard excusée, mais uniquement sur X, ce qui fait qu'il y a une inégalité d'information. Si on ne s'informe pas sur les réseaux sociaux, on est susceptible de croire à la remarque de Apolline de Malherbe. La fausse information a été diffusée sur les chaînes nationales d'extrême droite Europe 1 et CNews, dans le but sûrement d'enfermer les personnes racisées par des préjugés, et en particulier la ville de Saint-Denis, qui est une ville plutôt populaire. Une fois la fake news diffusée, malheureusement, même si elle a été expliquée et contestée, elle ne s'efface pas. Ces personnalités d'extrême droite banalisent le racisme. Les sources de mes informations sont la Ligue des droits de l'homme.
En plus de ce cas précis, comment êtes-vous confronté à ce genre d'informations, de fausses informations dans la vie quotidienne tous les jours ?
Étant jeune, j'ai une forte utilisation des réseaux sociaux et mon fil d'actualité va avoir tendance à créer des bulles de filtre. Donc les bulles de filtre, on peut les définir par un algorithme auquel on est confronté, qui conforte nos idées, notamment par des publications qu'on a précédemment aimées et qui nous enferme dans notre opinion sans nous ouvrir à d'autres. En effet, mon premier réflexe quand je m'informe sur les réseaux sociaux n'est pas de vérifier mon info. Je ne prends pas le temps de m'informer autre part, et les réseaux sociaux ont tendance à avoir recours au processus de propagande convaincante. Et étant une jeune sûrement pas assez cultivée sur les sujets politiques actuels, j'ai tendance à croire beaucoup ce que l'on me dit.
Et donc, avez-vous des conseils pour limiter la désinformation auprès des jeunes ?
Si je devais donner des conseils pour limiter la désinformation des jeunes sur les réseaux sociaux, je dirais que ce serait de diversifier ses sources en les vérifiant à partir de 3 sources différentes. De s'exposer à plusieurs avis politiques et surtout d'avoir un esprit critique qui est éveillé, de pouvoir se faire son propre avis soi-même sans être influencé par ceux des autres et de privilégier les sources sûres qui sont reconnues au niveau national.
Eh bien, merci beaucoup Clémence d'avoir été présente aujourd'hui et d'avoir répondu à mes questions. Cela nous a permis de mieux comprendre les cas de désinformation sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité aujourd'hui et j'espère à bientôt sur Radio Boaco.
Merci à vous deux pour cette superbe intervention. Nous passons à la pause musicale avec la musique Fly Me to the Moon composée par Yoko Takahashi. Suite à cette douce mélodie, nous écouterons l'interview de Félix qui interrogera Antoine, un joueur professionnel de Valorant, pour présenter les nouveaux métiers émergents. Messieurs, la parole est à vous.
Merci Guillaume. Je suis votre journaliste Félix et aujourd'hui, nous allons recevoir un invité très prisé par la jeunesse qui nous écoute. C'est l'une des étoiles montantes de l'e-sport, plus principalement sur le jeu Valorant. Il nous parlera de son ascension et de comment cela a été rude et semé d'embûches.
Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil.
Bonjour Antoine Lowe, alias LowFPS. Tu as 16 ans et tu es remplaçant de l'équipe première de Gentlemates, première équipe française sur la scène Valorant. Bienvenue sur Radio Boaco. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce qu'est Valorant ?
Valorant, c'est un jeu où s'affrontent deux équipes de 5 et qui alternent entre des phases d'attaque et de défense afin de remporter 13 manches à l'aide de mécaniques de tir précises et de compétences tactiques.
Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur ce jeu ?
Au début, je jouais vraiment pour m'amuser, comme tout le monde, mais avec le temps, j'ai pris en niveau. Ce qui m'a vraiment donné envie de continuer, c'est surtout le côté compétitif, réfléchir, jouer entre amis et surtout de s'améliorer. C'est là que j'ai compris que je pouvais essayer d'aller plus loin et peut-être pas juste jouer pour passer le temps.
Combien de temps le jeu te prend ? Et as-tu des petits rituels pour te concentrer ?
Bah, ça me prend un petit peu, à peu près 4 heures par jour, avec au moins un week-end avec toute l'équipe en studio. Et je pense que mon rituel avant des matchs importants, c'est des petits chants avec mon équipe et boire du chai au kombucha.
Et donc, quel message passerais-tu à un jeune comme toi qui voudrait suivre tes pas ?
Je lui dirais de ne pas vouloir aller trop vite, d'être patient parce que ça prend du temps de progresser. Il faut aussi essayer de comprendre ses erreurs et s'améliorer petit à petit et pas jouer sans réfléchir. Il faut surtout, le plus important, de continuer ses études à côté pour avoir une sécurité en cas de perte d'emploi.
Et donc au niveau de ta scolarité, où en es-tu ? À ton âge, on devrait être au lycée ?
Aujourd'hui, donc, je suis en première, encore au lycée. C'est vrai que c'est parfois compliqué de gérer les deux parce que ça demande beaucoup d'organisation. Mais j'essaie un maximum de garder un bon équilibre parce que c'est pour moi deux choses très importantes.
Je comprends, mais tu n'as pas peur de ne rien pouvoir faire après ta carrière ?
Si, bien sûr, c'est quelque chose auquel je pense. Une carrière dans l'e-sport, ça peut être très court, donc il faut prévoir la suite. C'est pour ça que je continue mes études pour peut-être un jour changer de métier et m'épanouir ailleurs. Et puis, il y a d'autres possibilités dans ce domaine, par exemple entraîner des équipes ou créer du contenu.
Penses-tu que ton travail est assez mis en avant aujourd'hui ? On voit généralement les joueurs comme des enfants qui jouent dans leur chambre. Qu'as-tu à répondre à cela ?
Ça commence à l'être, mais pas totalement. Il y a encore des gens qui pensent que c'est juste jouer aux jeux vidéo, alors qu'en réalité, ça demande beaucoup de travail et de sérieux. Mais les choses évoluent petit à petit et les gens comprennent qu'il faut vivre avec leur temps et découvrir de nouvelles choses.
Et est-ce qu'il y a assez d'institutions en France ? Y a-t-il un accès facile à l'e-sport ?
Aujourd'hui, il y a plus en plus de structures dans l'e-sport, donc ça se développe. Et là, ça reste un milieu récent, donc il n'y a pas encore autant de cadres que dans l'e-sport traditionnel. C'est donc pas forcément facile d'y accéder parce qu'il y a beaucoup de concurrence et peu de place dans les petits nombres de formations proposées. Il y a aussi une forme de stigmatisation qui se crée. Certaines personnes voient toujours ça comme une perte de temps, donc ça peut freiner les reconnaissances et les opportunités. Mais de plus en plus, ça évolue et je pense et j'espère qu'avec le temps, ça va devenir plus structuré et accessible pour tous.
Eh bien, merci de nous avoir fait partager votre métier.
Merci à vous.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette intervention, Antoine et Félix. C'était super.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Et tout de suite, on passe à notre chronique faite par Alexandre qui parle des sports réputés au sein des jeunes en France pendant l'année 2026. Alexandre, nous t'écoutons.
Alors bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons nous intéresser à l'impact du sport au sein de la jeunesse française et quels sont les sports les plus pratiqués par les jeunes français en 2026. En première position, on a bien sûr le foot qui est toujours aussi populaire à l'échelle nationale avec 2 100 000 licenciés recensés en 2026 avec des stars qui influencent la jeunesse comme Kylian Mbappé qui sera le capitaine de notre équipe de France à la prochaine Coupe du Monde. En deuxième position arrive le basket qui se popularise de plus en plus avec de nombreux terrains de basket qui ouvrent dans toute la France et des équipes qui apparaissent dans les villes. Et selon la FFB, la Fédération Française de Basket, la France compte 800 000 licenciés au basket. Alors, l'essor de ce sport n'est pas anodin. Des figures importantes françaises comme Tony Parker, ancien joueur des San Antonio Spurs, et la nouvelle tête d'affiche française du basket, le phénomène Victor Wembanyama, lui aussi joueur des Spurs, font en sorte de mettre en avant leur discipline. En troisième position, le rugby qui a eu un bond de popularité récemment avec la victoire du tournoi Destination, de plus en plus de personnes s'y intéressent. Derrière ces trois sports indéboulonnables, on retrouve le tennis, la gymnastique, le water-polo et le handball, bien évidemment.
Mais dis-moi Alexandre, avec ces grandes tendances, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes français qui pratiquent des activités sportives ?
Pas vraiment Guillaume. On remarque une augmentation de la sédentarisation de notre jeunesse. 73% des 11-17 ans n'atteignent pas les normes d'activité physique. Alors bien sûr cela est problématique pour la santé, car selon des spécialistes, il est très bénéfique d'au moins faire 4 heures d'activité physique par semaine, accompagnée d'une alimentation équilibrée bien sûr. Alors, pour remédier à ce problème, rajouter 2 heures de sport par semaine au lycée serait une très bonne solution, à mon avis. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Alexandre pour cette chronique, c'était très intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous avons exploré la jeunesse sous plusieurs angles, entre nouveaux métiers, des informations sur les réseaux sociaux et passions sportives. Merci à nos invités Antoine Lowe et Clémence Sauvé, et à toute l'équipe, donc nos deux intervieweurs Félix Bellettre et Sarah Sivu. Merci également à notre chroniqueur Alexandre Lan et notre réalisateur, sans qui l'émission serait impossible, Simon Bossarter. Merci aussi à Rosalie et Camille qui sont venus nous apprendre tout à propos de la radio pour réaliser cette émission. On espère que cette émission donc vous aura plu et donné matière de réflexion sur la place des jeunes dans la société d'aujourd'hui. C'était Guillaume Roth à la présentation. Merci de votre écoute et à très bientôt sur Radio Campus Paris. Et n'oubliez pas, restez à l'écoute de Radio Boco. No, no.
vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio Campus Paris pour l'émission La politique connectée. Nous sommes des élèves de première et suite à notre observation de la pièce de théâtre Le poids des fourmis qui parle de la révolte des jeunes, nous nous retrouvons devant vous pour parler de la politique, des jeunes et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, mais est-ce vraiment le cas ou est-ce que la politique a simplement changé de terrain? C'est pourquoi on va aujourd'hui vous parler de l'utilisation des réseaux sociaux par les politiques, car cela a un impact important sur les jeunes. Beaucoup s'informent uniquement sur ces plateformes et cela peut donner une vision simplifiée, voire biaisée de la politique. Nous allons donc, dans un premier temps, écouter Anna qui va réaliser sa chronique.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, nous nous intéressons à Hakim Omiri, un talent en pleine ascension dans le monde de l'humour français. Si son nom ne vous dit pas encore grand-chose, retenez-le bien. Hakim Omiri incarne une nouvelle vague d'humoristes qui offre bien plus qu'un simple divertissement. Son humour se caractérise par sa profondeur. Chaque plaisanterie a du sens et chaque chute recèle une réflexion plus profonde. Omiri s'est d'abord fait connaître sur les scènes de stand-up parisiennes. Il a ensuite touché un public bien plus large grâce à ses vidéos YouTube et à ses collaborations avec des créateurs de contenu de renom. Son style distinctif s'est rapidement imposé, un humour vif, souvent incisif et toujours intelligent. Ce qui rend son travail particulièrement captivant, cependant, c'est son approche singulière des questions de société. Des réseaux sociaux et du discours public à l'éducation, en passant par la liberté d'expression, Hakim Omiri transforme des sujets souvent lourds en matière comique tout en préservant l'intégrité de son message. Son spectacle Contexte illustre parfaitement cette philosophie. Le titre lui-même en transmet le message central. Recadrer les situations, prendre du recul et examiner d'un œil critique ce que nous entendons et voyons. Son humour sert ainsi presque d'outil pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, il occupe également une place de choix à la radio, notamment sur Radio Nova, où il anime la Riposte. Là encore, il mêle actualité, satire et regard critique avec une énergie résolument moderne. En résumé, Hakim Omiri est bien plus qu'un simple humoriste. Il incarne une voix unique, un style particulier et une façon de faire rire tout en suscitant la réflexion. En fin de compte, à une époque marquée par des changements rapides, c'est peut-être justement son humour qui nous incite à faire une pause pour prendre le temps de réfléchir véritablement.
Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui distingue vraiment Hakim Omiri des autres humoristes actuels ?
Ce qui le distingue, c'est sa capacité unique à mêler humour et réflexion profonde. Il ne cherche pas simplement à faire rire, il s'efforce également d'amener son public à s'intéresser à l'actualité et à y réfléchir. Cela inclut des sujets tels que les réseaux sociaux, l'actualité récente ou des débats sociaux plus larges. Par conséquent, son approche comique repose autant sur l'impact de ses punchlines que sur le message profond qu'il souhaite transmettre.
Et est-ce que tu aurais des exemples de vidéos ou de passages de spectacles qui t'ont marqué ?
En effet, j'aime bien quand Hakim Omiri parle de ses news dans la Riposte, parce qu'il arrive à critiquer leur discours avec humour. Je cite dans un de ses extraits. Directeur de l'info chez Bolloré, ça consiste à donner la direction de la désinformation, c'est-à-dire à droite toute. Je trouve que ça fait réfléchir sur la manière dont certains médias influencent l'opinion.
Merci beaucoup Anna, nous allons maintenant vous faire écouter une musique en vogue sur les réseaux sociaux.
Je n'avais plus qu'à ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. Son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta valentine.
Nous allons donc maintenant à écouter une interview entre Jules, un militant anti-réseaux sociaux, et Julia, une pro-réseaux sociaux.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Julia et Jules, donc bonjour à vous deux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la première source d'information chez les jeunes. Donc vous, en tant que jeune, est-ce que vous informez politiquement sur les réseaux sociaux ?
Oui, car c'est facile d'accès et ça permet de diminuer le désintérêt chez les jeunes.
Oui, à petite dose. Je pense que c'est aujourd'hui inévitable dans la société dans laquelle on évolue, surtout en tant que jeune. Mais malheureusement, ces outils qui devraient nous aider et nous permettre de nous informer deviennent des instruments de propagande, où mensonges et discriminations deviennent banalisés.
Êtes-vous abonné à différentes personnalités politiques afin d'avoir accès à plusieurs opinions sur l'information ?
Alors oui, je tente de m'informer auprès de plusieurs supports, même si je suis en désaccord avec ce qui est proposé. J'essaie d'utiliser les réseaux sociaux intelligemment et limiter ma consommation.
Personnellement, je préfère suivre les comptes qui m'intéressent, même si l'algorithme me propose parfois du contenu qui n'est pas en accord avec mes idées.
Dès 2007, les politiciens ont commencé à s'exposer sur les réseaux sociaux, notamment Mélenchon, afin de communiquer leur programme et de toucher la nouvelle génération. Pensez-vous que c'est une bonne chose ?
Oui, c'est une bonne chose puisque ça permet de toucher beaucoup de citoyens. Ça permet aussi un pluralisme des opinions, donc certaines opinions minoritaires sont diffusées, et des interactions entre les citoyens.
Selon moi, non. Du moins, pas dans la société dans laquelle on vit. Il y a d'autres supports que l'on peut utiliser pour proposer son programme et défendre ses idées, plutôt que ses réseaux sociaux. Les adolescents et les jeunes adultes peuvent être victimes de manipulations émotionnelles. En effet, cette soi-disant proximité avec les jeunes est, selon moi, en réalité, un moyen d'emprise de ces hommes politiques.
Les réseaux sociaux ont-ils changé la politique selon vous ?
Alors Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux bousculent les règles du jeu démocratique, c'est une certitude. Les informations fusent, ce qui n'assure pas pour autant la fiabilité de cette information. À l'ère des fake news, il est plus important que jamais de vérifier les informations publiées. De plus, malheureusement, ces opinions qui sont diffusées ont un impact, souvent néfaste, sur la population. Car la vision de ces hommes et femmes qui veulent à tout prix mettre en avant leurs réussites, leurs exploits et leurs victoires n'est en réalité pas représentative de la globalité de leurs programmes et de leurs idées. On peut prendre l'exemple du RN qui est extrêmement omniprésent sur ces réseaux.
Les réseaux sociaux n'ont pas changé la politique. Selon moi, ils la montrent différemment et dédiabolisent certains aspects. Comme par exemple les idées d'Éric Zemmour sur le grand remplacement, qui sont diffusées à travers des posts et des interventions nombreuses sur les réseaux sociaux. Il parvient donc à mettre au centre du débat public son idée.
Et pour finir cette interview, pensez-vous que les réseaux sociaux pourraient-ils être un remède à l'abstention électorale ?
L'abstention électorale est une conséquence du manque d'informations chez les jeunes, qui vont donc pas forcément se sentir légitimes de voter. Les réseaux sociaux sont des médias connus chez les jeunes, ils vont donc avoir moins de mal à s'informer. L'abstention peut aussi s'expliquer par le fait que certaines personnes ne se reconnaissent pas dans les partis politiques proposés.
Oui, je pense que c'est une certitude, c'est indéniable. Nous savons que l'abstention est aujourd'hui de plus en plus élevée en France, ce qui est en partie dû au manque d'informations et de renseignements des jeunes, comme l'a si bien dit Julia. La communication et la proximité des jeunes et des politiciens augmentent obligatoirement grâce à ces outils. En effet, les jeunes se renseignent plus et se sentent plus concernés, mais les politiciens doivent tout de même garder une certaine distance avec la population. La télévision et les journaux apparaissent donc comme une meilleure solution pour ma part.
Merci beaucoup pour vos réponses et à bientôt peut-être.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre écoute. Nous remercions les équipes de Radio Campus Paris pour leur accueil et leur patience.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez La Jeunesse au micro.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Donc Donc notre classe du lycée Albert Camus est allée voir la pièce de théâtre Le poids des fourmis. Elle évoque plusieurs thèmes comme l'éco-anxiété, la désobéissance civile, la démocratie à l'échelle d'un lycée. Pour rebondir sur le thème de la démocratie, après avoir vu et étudié cette pièce, nous avons décidé de parler du thème de l'infobésité, un danger pour la démocratie chez les jeunes. Appelée aussi surcharge informationnelle, donc qui désigne une situation où une personne qui est exposée à trop d'informations au point qu'elle ne sache pas les trier, les comprendre et prendre une décision. Aujourd'hui, on remarque un certain recul dans la participation électorale et surtout chez les jeunes. Nous accueillons nos deux journalistes qui vont organiser une interview qui sera coupée en deux. Donc d'une part, les invités répondront à des questions et dans l'autre, dans la seconde partie, elles débattront sur le sujet.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Bonjour Arwen, bonjour Zoé.
Bonjour Charline.
Je vous laisse la parole.
Merci Charline. Donc aujourd'hui nous sommes avec Luna, une jeune mère fraîchement élue, et Louane, une porte-parole des jeunes victimes d'infobésité. Donc bonjour et bienvenue à toutes les deux. Vous laisse la parole.
Bonjour, donc moi je m'appelle Luna Echen et je suis mère d'Épinay-sur-Seine depuis quelques mois.
Bonjour, moi je m'appelle Louane et je suis une jeune étudiante.
Merci à toutes les deux. Donc pour vous, quelle place a l'engagement politique dans votre vie ?
Personnellement, je suis pas du tout engagée du fait que j'ai vécu dans une famille, donc d'un côté de gauche et puis de l'autre de droite. Donc déjà, c'était assez compliqué pour moi de me situer politiquement, avec justement ce surplus d'informations, d'idées politiques avec lesquelles j'ai grandi. Et donc, au fur et à mesure, j'ai lassé cette idée d'appartenir à un parti politique. Après, il n'y a pas que la famille qui a joué un rôle, il y a aussi ce qu'on entend au quotidien, donc à la télévision et aux réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, où là, justement, c'est compliqué de différencier le vrai du faux. Ces différents facteurs m'ont éloignée de ce domaine et je pense que je ne suis pas la seule. Plein d'autres jeunes font face à ce même cas.
Donc moi, personnellement, je suis maire du coup d'Épinay-sur-Seine, une commune dans le 93 en Ile-de-France de 53 000 habitants. Et personnellement, mon expérience, c'est que mon grand-père a été maire, mon père également, et que j'ai pu travailler 3 ans dans la mairie de ma ville, donc de mes 18 ans jusqu'à le début de mon mandat.
Merci à vous. Loué, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que plus tu t'informes, moins tu ressens l'envie de voter ?
Oui, justement, il y a plusieurs raisons, donc notamment le fait qu'on soit submergé d'informations. En fait, on ne sait plus quoi penser et au fur et à mesure, on s'en désintéresse. Il y a aussi le fait que beaucoup de jeunes ont moins confiance, donc dans les médias et en politique, parce qu'il y a énormément de fake news et d'informations contradictoires. Alors, on ne sait plus quoi croire. Et puis aussi, j'ai l'impression d'être une petite fourmi dans le sens où c'est pas mon vote, c'est pas un vote qui va changer la donne, alors qu'il y a énormément d'électeurs.
Merci Loane pour ta réponse. Donc Luna, pour toi, quand tu échanges avec des jeunes, quelle est la réponse qui revient le plus souvent des raisons de leur abstention ?
Donc moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de discuter avec des jeunes dans des lycées et des collèges de ma ville, et également avec mon entourage d'amis, etc. Et j'ai eu des discussions très intéressantes et pertinentes. Et on voit qu'ils étaient vraiment préoccupés par la cause. Les réponses que j'ai eues le plus souvent, c'était qu'ils n'arrivaient pas à s'y intéresser car les parents ne leur introduisaient pas assez ou toujours l'enjeu en tant qu'électeur de l'importance de leur voix. Donc ça devient important de socialiser les jeunes pour voter et que donc pour moi la socialisation politique qui est en baisse actuellement doit être remise au goût du jour car elle est essentielle dans la vie d'un citoyen votant.
Merci Luna. Et toi Louane, en tant que jeune, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sentir plus à l'aise ou plus confiante pour voter ?
Alors j'ai 3 grandes idées pour répondre à cette question. Donc la première, avoir une garantie que les médias qu'on utilise sont fiables, comme par exemple une liste fournie par les établissements avec des sites adaptés fiables. Aussi la deuxième, c'est peut-être arriver à mieux réguler le temps passé sur les réseaux sociaux pour éviter d'être submergé. Et pour finir aussi le fait que les parents doivent peut-être plus prendre le temps de socialiser leurs enfants en politique. Donc voilà, qu'ils considèrent que ce soit quelque chose vraiment d'important.
Merci Loane pour ta réponse. Donc Luna, pour toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager politiquement à un moment où beaucoup de jeunes s'en éloignent ?
Déjà, je me suis engagée personnellement parce que autour de moi, il y avait forcément beaucoup de politique et donc ça m'a tout de suite intéressée. Et je suis très présente pour la cause, on va dire. Aussi, parce que pour moi, je suis plus consciente sur ce qui va se passer plus tard par rapport à la jeunesse et ce qui va notre futur en tant qu'adulte. Aussi parce que j'aimerais apporter du renouveau et que forcément, j'ai plus d'expérience de par mon entourage, mes grands-parents et mes parents qui m'ont beaucoup introduit dans le milieu politique. également grâce à mes rencontres donc au lycée et aux gens à qui j'ai pu parler, et parce que à mon avis, de par ma jeunesse, je peux être plus présente sur les réseaux sociaux et donc plus toucher les jeunes, et parce que de par mon statut de jeune mère, encore une fois, pour moi, je dois aider les jeunes et les conseiller.
Merci donc, Luna.
Je vous interromps pour quelques minutes avec Feel Good de Gorillaz.
Interview avec la deuxième partie, le débat.
Donc merci Luna et Louane d'avoir répondu à nos questions. Donc pour continuer, on aimerait que vous échangiez vos points de vue respectifs sur la question.
Donc Luna, pour toi, quelles seraient les solutions à l'infobésité pour que Louane se sente plus en confiance dans l'engagement démocratique?
Pour moi, il faut premièrement que tu développes ton esprit critique, car c'est très important, notamment pour les fake news. Et il faut que tu vérifies donc les sources et que tu vérifies également si les autres médias ont pu poster la même information.
Oui, mais le problème, c'est qu'on est submergé et ce serait bien que les élus comme vous nous aident.
Pour ça, tu peux demander notamment à ton lycée, mais il faut également que tu sois impliqué, il faut que tu demandes aux élus de ta ville, etc. Moi, malheureusement, du coup, je ne peux pas t'aider parce que je ne suis pas maire de la ville dans laquelle tu vis. Mais je pense que si tu demandes des conseils et que tu demandes de l'aide principalement, ça va porter ses fruits. Enfin, tu pourras remédier à tes difficultés. Et aussi, je pense que par rapport à ce sujet-là, vous vous stressez trop pour quelque chose que tu peux totalement contrôler grâce à une implication.
Oui, mais on n'a pas forcément le vocabulaire pour comprendre et les connaissances nécessaires avec les différents personnages politiques ainsi que leur opinion. En fait, l'idée est bonne dans l'ensemble, mais il faudrait mieux l'interpréter en fonction des différentes situations.
Je pense que du coup, pour ça, tu peux demander notamment aux délégués ou à l'administration de ton lycée pour que déjà ils t'aident, mais il faut aussi que tu sois autonome de ton côté, c'est-à-dire que tu puisses faire ça aussi toute seule de ton côté, parce que ça, tu dois montrer une implication.
Oui, mais par exemple, moi je suis étudiante et il faut que je révise mes partiels, et donc j'ai pas forcément le temps de comprendre, de chercher à m'informer.
Mais aussi sur le fait que tu disais que ton vote, t'as l'impression que t'es comme une fourmi, enfin que ça compte pas. Moi, je voulais te dire que ton vote, il compte, parce que voter, c'est pas juste cocher une case ou mettre un bulletin dans une urne, et c'est donc décider de son futur pour toi et ta ville. Et aussi, ça peut être un vote socialisateur, parce que tu peux influencer tes proches à voter.
Oui, mais par exemple, la dernière fois, j'avais voté pour un parti et il a eu que 7% des voix.
Mais c'est pas parce que ton parti a que 7% des voix qu'il n'est pas reconnu. Enfin, c'est toujours un parti avec des idées et que c'est bien que tu votes pour eux. Mais c'est pas aussi parce que maintenant, ils n'ont pas une importance politique énorme que plus tard, ils seront toujours aussi peu importants. Il faut que tu aies une forme de persévérance dans tes idées.
Ok, merci beaucoup. Et quel serait pour vous le meilleur support pour s'informer au nom de tous les jeunes?
Moi, je pense que ça dépend du coup des jeunes, mais aujourd'hui, ils sont plus présents sur les réseaux sociaux. Donc, mais toi, faut que t'ailles sur ce qui te met le plus à l'aise, évidemment. Mais je pense que déjà, la politique, enfin, depuis tous les formats, la politique, elle doit être compréhensible avec des moyens courts, clairs et sans tous les titres avec les couleurs vives, etc. Comme par exemple sur CNews ou BFM TV qui peuvent embrouiller ton cerveau et rendre tout ça confus et du coup qui ça rend difficile ta compréhension forcément.
Merci à vous. Pour résumer ce vif échange, on voit qu'il y a des points de vue différents pour les jeunes. Ce n'est pas un désintérêt complet, mais un trop-plein d'informations, un manque de temps et une impression que leur vote n'est pas pris en compte.
Et pour la mère d'Épinay, les jeunes doivent s'impliquer en conservant un esprit critique et demander de l'aide à des personnes ayant de l'expérience qui peuvent les aiguiller dans leur choix. Donc merci d'avoir répondu à toutes nos questions et j'espère que votre parole sera entendue par les jeunes qui nous écoutent et qui prendront conscience que leur vote a un point important dans la vie politique.
Merci.
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 Donc merci à nos journalistes, Arwen et Zoé. Merci à nos invités, Louane et Luna. Et merci à notre réalisatrice, Louise. À bientôt sur Radio Campus Paris.
Bonjour, il est 17h11. L'émission Les Citoyens de Camus vous est présentée par la classe d'AGGSP du lycée Albert Camus en première générale.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Nous vous présentons cette émission dans le cadre d'une sortie au Théâtre de l'Avancienne à la pièce « Le poids des fourmis », vue le 19 février. La pièce aborde plusieurs sujets politiques et écologiques, sous un ton humoristique largement assumé. La pièce parle par exemple de la désobéissance civile. Cela sera donc le sujet principal de cette émission. Donc nous aurons la chance aujourd'hui d'accueillir deux invités spéciaux autour de deux interviews différentes. Premièrement, l'interview de Chouchou, une artiste engagée à l'origine de plusieurs projets artistiques qui fait partie du collectif Le Bruit qui court. On poursuivra ensuite avec l'interview du maire de Mittainville qui nous donnera son avis sur la désobéissance civile. Pour finir, Léo nous présentera une chronique sur les mouvements de contestation et de désobéissance civile moderne.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Bonjour Chouchou, et bonjour à notre journaliste Elias. Bonne interview à vous.
Bonjour Chouchou, comment allez-vous?
Bonjour, je vais très bien, merci.
Alors pour rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, la désobéissance civile, c'est le fait de manifester son mécontentement en tant que citoyen, en contournant certaines règles parfois inadaptées ou injustes. Souvent, les causes les plus importantes dans l'histoire ont été propulsées grâce à l'usage de la désobéissance civile. Alors, pouvez-vous présenter votre parcours et comment vous êtes-vous initié à l'artivisme ?
Alors moi, mon parcours, pour le résumer rapidement, moi j'ai fait une licence de droit et un master de droit. À partir de là, je suis rentrée dans l'associatif de manière large, avec plusieurs causes qui ont grandi au fur et à mesure. Mais je suis d'abord rentrée par tout ce qui est la cause environnementale, mais avec un accès par rapport aux océans, à la pollution plastique. Je viens du bord de mer, donc c'était un peu là que ça me touchait personnellement. Et il y a eu un peu toute une évolution après des sujets environnementaux de manière large, mais aussi après un peu plus sociétaux, notamment avec un projet politique qui s'appelait la primaire populaire aux élections présidentielles de 2022. Et ensuite, s'en est suivi l'arrivée au du Bruit qui court en 2022 avec un aspect du coup plus artistique pour venir aussi porter des luttes et des sujets. Donc ça a été un peu mon endroit d'arrivée au niveau de l'artivisme, du coup avec ce collectif qui vient traiter ce sujet-là et du coup qui vient mettre, qui est la contraction des deux mots, mais donc l'artistique et l'activisme, et donc comment est-ce qu'on utilise l'art, la création pour venir le mettre au service des luttes, qu'elles soient, nous en tout cas au sein de notre collectif. Elles vont de environnemental, sociétal, démocratique, on englobe beaucoup, beaucoup.
Et justement, quelle cause avez-vous traité récemment dans le cadre d'un projet artistique ou autre avec le collectif?
Une des des dernières, vraiment une des dernières en date, on a actuellement ce qu'on appelle la MAGMA, qui est une déambulation artistique. Donc on est parti de l'outil de la manifestation, mais on le réutilise et on déambule du coup sur un tracé, en s'arrêtant pour faire des interludes artistiques, musicales, et on le fait sur une thématique. Là en l'occurrence, on l'a déjà fait, on est allé à Agen, un peu plus dans un territoire local, et ils ont choisi comme thème la régénération. Donc la régénération des sols notamment, qui est un très gros sujet pour eux dans leur territoire, l'agriculture, etc. Et donc ça, c'est une des dernières, par exemple, thématiques avec un outil différent, qui est la déambulation artistique sur des sujets, pour le coup, là, un peu plus environnementaux. Et on le fait à Paris en fin mai, pareil, une déambulation artistique. Et là, la thématique, c'est faire corps. Donc une thématique un peu plus sociale, de groupe, de communauté. Et donc comment est-ce qu'on fait ensemble et on se met collectivement ensemble pour agir et faire des choses?
Justement, parce que, bon, en tant que débutant, et je pense que pour les nombreux auditeurs qui nous écoutent, y a-t-il des formes de communauté, justement, qui se dressent autour de l'artivisme ou qui se sont formées au fil du temps, autre que, par exemple, votre collectif ou...
Pour moi, bon, le bruit qui court, c'est une communauté d'artivisme, mais pour moi, il y en a plein. Il en existe plein de petites, au local, au national, derrière une association, derrière un collectif. Même en fait, dès lors qu'on est une petite troupe, une petite compagnie et qu'on utilise de la création pour venir le mettre au service de lutte, dès lors pour moi, on est une communauté dans de l'artivisme. Et donc comment est-ce qu'on crée les liens et les ponts entre chacune de ces structures et ces collectifs pour le faire? Je n'ai pas de nom là précis à donner, parce qu'aussi c'est beaucoup d'individus qui partent d'un sujet, d'une thématique, d'une lutte qui les porte, et qui vont ensuite faire communauté, parce qu'en fait, on se rend compte que on est plusieurs sur un même vécu ou sur un même sujet à vouloir aller le défendre et à vouloir aller le porter différemment, en se disant peut-être que l'artistique ou venir toucher les émotions par un autre biais va permettre de parler davantage de ce sujet, quoi.
Et justement, comme l'artivisme met en évidence aussi l'ouverture, est-il possible que même pour des profils pas forcément les plus artistiques, la possibilité de s'engager et de faire partie des collectifs, justement, et de mettre toute leur personnalité dans ce travail-là?
Ouais, totalement. Pour moi, c'est ça qui est aussi beau avec l'artivisme, c'est vraiment... en tout cas, nous, c'est ce qu'on prône comme message, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être le plus grand des artistes, il n'y a pas besoin d'avoir les plus grandes compétences dans, je sais pas, la danse ou dans le théâtre. Dès lors qu'en fait, il y a quelque chose qui crée de l'émotion en moi par un biais artistique, en fait, allez, let's go, j'y vais, je peux proposer quelque chose, je peux faire quelque chose, ça va peut-être être écrire une chanson, ça va peut-être être faire une pièce de théâtre, participer à quelque chose avec un autre groupe. En fait, tout le monde est légitime à se dire, allez, j'ai une appétence et j'ai envie de transmettre et de partager quelque chose par un autre biais. Que peut-être juste de la pétition ou orale, et de se dire, ok, là j'ai un médium artistique que j'adore, let's go, j'y vais. Et en fait, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences et d'attentes, quoi que ce soit. Et même si on est débutant, de chez archi débutant, en fait, s'il y a un petit truc au fond de soi qui se dit, j'ai envie d'y aller, faut y aller, quoi. Surtout si c'est avec une lutte, qui nous touche à cœur.
Et le médium artistique, justement, vous pouvez expliquer ce que c'est?
Ouais, moi quand je parle de médium artistique, c'est un peu... tout ce qui existe finalement aujourd'hui pour faire véhiculer des émotions. Il y a la danse, enfin nous au sein du collectif, il y en a par exemple beaucoup qu'on utilise, mais donc va y avoir le théâtre, la comédie, va y avoir la danse, va y avoir tout ce qui est graphisme visuel, mais ça peut avoir plein de versions différentes, ça peut être sur les réseaux sociaux avec tous les montages, toutes les vidéos qu'on peut faire, mais ça peut être aussi vraiment du graphisme type des illustrations, des dessins. Va y avoir le chant, on a une chorale, à quel point la voix aussi, ça porte beaucoup de choses. Il y a aussi tout l'art du cirque, les clowns, les circassiens, mais il y a également tout ce qui va être aussi un peu l'aspect plus cinéma, vidéo, montage. C'est pour moi, c'est un peu ça les médiums artistiques qui peuvent être utilisés, et il en existe vraiment beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps, Chouchou. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite une très bonne journée.
Merci à vous.
Merci à vous deux pour cette interview. Maintenant, place à la pause musicale.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, et créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tous n'est la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Développe là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Et maintenant, à notre journaliste Sacha et le maire de Mittainville pour notre deuxième interview.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Donc au contraire de notre premier invité, vous ne pensez pas que l'injustice se règle par les mouvements de désobéissance? Si une loi est perçue injuste pour une partie de la population, quels sont les moyens d'action qui peuvent leur rester?
Bah, y a des moyens d'action qui restent légaux, comme interpeller les élus, organiser des pétitions, participer au débat public, saisir les tribunaux ou soutenir des associations qui défendent cette cause.
En termes de désobéissance, le mouvement des Gilets jaunes a changé beaucoup de choses donc en 2019. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de votre travail?
Bah, je comprends bien. Même si ce mouvement a attiré l'attention sur certaines difficultés sociales, la violence et la désobéissance civile qui l'ont accompagné ne sont pas acceptables pour moi. Les revendications doivent être portées par des moyens légaux pour préserver l'ordre et l'égalité pour tous.
Mais c'est pas une vision très stricte de la démocratie que d'empêcher le mouvement de désobéissance civile?
Non, je ne réduis pas la démocratie. Au contraire, je cherche à la protéger. La démocratie repose sur des règles et des lois que chacun doit respecter. Refuser la désobéissance civile, c'est garantir que tout puisse s'exprimer et agir dans un cadre sûr et égalitaire, sans que la liberté de certains n'empiète sur celle des autres.
Mais vous avez jamais imaginé une seule situation où désobéir à la loi serait justifié?
Non, au sein de la ville, voyez, il y a des conseils municipaux dans lesquels vous pouvez discuter pour améliorer la vie des citoyens. Et donc voilà, dans cette société, il y a des moyens de discussion et d'échange pour cela.
Donc vous dites que la désobéissance civile est illégale, mais est-ce que pour vous, une loi est forcément juste parce qu'elle existe?
Bah, vous voyez, dans cette société, quand la loi est injuste, il y a l'Assemblée nationale par exemple. C'est-à-dire, vous pouvez dire vos idées pour les lois qui sont injustes pour qu'un député puisse vous les modifier.
Très bien, merci beaucoup monsieur le maire.
Merci à vous.
Merci monsieur le maire et merci à notre journaliste Sacha. Maintenant au tour de Léo pour sa chronique du jour.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de désobéissance civile et d'opposition. Pour simplifier, je vais parler de trois pays dont la population refuse les lois. Je commencerai par le Bangladesh, puis le Madagascar et je finirai enfin par la Géorgie. Tout d'abord, pour commencer, le Bangladesh, il fait suite au mouvement de la Gen Z qui a eu lieu au Népal, qui a fait tomber le régime. Sa population s'inspire du changement de régime et tente de faire de même. L'article 295 interdit le blasphème. En effet, il est interdit de s'attaquer à la religion. En réponse, de nombreux Bangladais descendent dans les rues avec des banderoles attaquant la religion ou tout simplement refusant de reconnaître cette dernière comme prépondérante. On peut également citer les femmes qui peuvent potentiellement se dévoiler dans les différentes manifestations qui ont lieu. Récemment, il y a eu des élections libres créant un embryon démocratique.
Ah d'accord, et pour Madagascar, comment ça se passe ?
Eh bien Madagascar tout d'abord est une petite île en Afrique. Dernièrement, différents mouvements de contestation sont nés. Le pays et sa population demandent plus de liberté. Cependant, le droit de grève y est limité. En effet, il est interdit de manifester dès lors que la grève porte atteinte aux intérêts de la nation. Cet article limite donc définitivement les droits à manifester. La majorité des manifestations organisées par la Gen Z sont interdites, ce qui pousse plusieurs milliers de personnes à manifester. Je vais terminer par la Géorgie, qui est un pays à la frontière entre l'Europe et l'Asie. Récemment, le président du parti Rêve géorgien est arrivé au pouvoir. Ce dernier est un allié du Kremlin. Il a falsifié les élections, ça a été reconnu par l'ONU et par l'Union européenne. La population vient de descendre dans les rues de Tbilissi, qui est la capitale de la Géorgie. On observe que les opposants sont majoritairement des jeunes et des intellectuels. La question est, quand est-ce que l'UE décidera-t-elle de venir en aide ? Toutes ces manifestations sont réprimées et sont interdites par le gouvernement, ce qui pousse la jeunesse et les intellectuels dans une forme d'illégalité lors des manifestations. Cependant, ces dernières restent majoritairement pacifiques. Aujourd'hui, les mouvements de manifestation et d'opposition permettent de défendre la liberté, mais cette révolte suffira-t-elle ?
Merci Léo pour cette chronique. Et merci à nos deux journalistes, Elias et Sacha. Merci à Monsieur le maire. Et Chouchou d'être venu et d'avoir répondu aux questions. Merci à la radio Campus Paris de nous avoir accueillis. J'espère que l'écoute a été agréable. Et bonne soirée à tous.